De la masculinité positive du Cameroun. Cet événement marque une étape décisive dans notre engagement collectif en faveur d'une société plus juste, plus inclusive et plus harmonieuse. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions menées par le réseau des femmes leaders africaines pour la transformation de l'Afrique, chapitre Cameroun. Elle fait suite à une étape majeure franchie le 15 septembre 2025, date à laquelle Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, en sa qualité de présidente du comité de pilotage de l'AU 237, a procédé à l'installation officielle du directeur du club des ambassadeurs de la masculinité positive. Mesdames et messieurs, le Cameroun, à l'instar de nombreux pays africains de mer, demeure confronté à des défis persistants liés aux violences fondées sur le genre, aux stéréotypes sociaux et aux inégalités entre les femmes et les hommes. Et face à ces réalités, la UI 237 œuvre depuis sa création pour l'autonomisation des femmes et des filles à travers l'éducation, l'entrepreneuriat et la promotion de la santé, la promotion de l'égalité de genre par une sensibilisation inclusive de tous les acteurs de la société, y compris les hommes, trop souvent absents de ces débats, la consolidation de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives durables et participatives. Notre vision se résume en un slogan fort et porteur d'espoir : construire une société où chaque individu, quel que soit son sexe, peut s'épanouir librement et dignement. En 2021, lors du sommet de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté la déclaration sur l'engagement des hommes et des garçons pour l'égalité des sexes. Cette déclaration reconnaît que la masculinité positive, fondée sur le respect, la responsabilité, la protection et le partage, constitue un levier essentiel pour éliminer les violences faites aux femmes et aux filles, promouvoir l'éducation des filles et l'accès équitable aux services de santé. Instaurer aussi une culture de paix, de dialogue et de respect mutuel. Elle nous rappelle avec force que le changement durable ne peut se faire sans l'implication active, consciente et responsable des hommes. C'est dans cette perspective qu'est né le Club des ambassadeurs de la masculinité politique du Cameroun, avec pour ambition de valoriser et soutenir les modèles masculins qui incarnent déjà les valeurs de respect, de solidarité et d'équité. Créer un espace de dialogue intergénérationnel autour des normes de genre et des stéréotypes préjudiciables. Former des ambassadeurs capables de porter et de diffuser ce message au sein des communautés, des écoles, des entreprises et des lieux de culte. Les objectifs du club sont clairs. Promouvoir les valeurs et les principes de la masculinité positive. Soutenir activement les initiatives de promotion et de protection des droits des femmes et des filles. Chers ambassadeurs, ce club n'est pas une structure isolée. Il est un mouvement collectif, un engagement citoyen où chaque action aussi, modeste soit-elle, compte. Nous vous invitons à être des modèles inspirants pour vos pairs et vos communautés, partager vos expériences et apprendre les uns des autres, collaborer étroitement avec les organisations de femmes, car l'égalité se construit ensemble. Monsieur le Président du Club, si les femmes vous ont porté à la tête de ce club, c'est en raison de votre engagement sincère, constant et passionné en faveur de la promotion et la protection des droits des femmes et des filles. Depuis 2020, notre réseau bénéficie de votre accompagnement bénévole et indéfectible. Magistrat de carrière, vous n'avez pas hésité à prendre position publiquement en organisant une journée de protestation contre la décision rendu à Douala dans l'affaire Diana Yango. Vous avez fait le choix courageux d'être du côté des femmes qui pleurent, plutôt que du confort de votre corporation. Ce texte fort a renforcé la confiance et l'estime que les femmes avaient déjà pour vous et a relevé votre sens élevé de la justice et de l'équité. Monsieur le Président, ce n'est pas ici la présidente de la Ligue des 137 qui parle, à vous, mais une mère qui parle à son fils et qui lui dit « Va de l'avant, nous comptons sur toi, tu as le soutien de toutes les femmes, nous nous sentons en sécurité avec toi et nous sommes fiers de toi. » Nous exprimons notre profonde gratitude à nos partenaires, en particulier la société Travex, pour son appui au volet symbolique de l'activité de renforcement des capacités tenue hier. Nous remercions également et surtout l'UNFPA, partenaire officiel de cette cérémonie de lancement, pour son implication déterminante dans l'organisation de cette activité. Merci du fond du cœur à Monsieur le représentant résident et à l'ensemble de ses collaborateurs. Nous souhaitons que cet accompagnement se consolide et s'inscrive dans la durée. Enfin, un hommage tout particulier à Madame le ministre, professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa, dont l'engagement, le leadership et l'accompagnement constant ont permis de concrétiser cette vision. Madame le ministre, votre présence aujourd'hui témoigne de l'importance que vous accordez à la promotion d'une masculinité respectueuse et solidaire, ainsi qu'à la stabilité et à l'équilibre de nos familles. Merci, madame. Madame le ministre, mesdames et messieurs, le chemin est long, mais chaque pas compte. Ensemble, faisons de la masculinité positive une réalité camerounaise pour des familles épanouies, des communautés harmonieuses et un avenir meilleur pour nos enfants. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Il s'agit donc de Madame Baba Bala, Françoise, présidente du réseau des femmes leaders pour la transformation de l'Afrique chapitre du Cameroun. À présent, nous allons inviter le professeur Timmy Germain pour la leçon inaugurale sur le thème « Les enjeux du féminisme et la prise en compte de la notion de victime spécifique dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ». Professeur Timmy Germain Tonneau, vous êtes invité à son appel.
Excellence, madame le ministre, madame la ministre, promotion de la femme et de la famille, madame le professeur, cher maître, excellence, monsieur le membre du conseil constitutionnel, monsieur le professeur Adolphe Nkouaché, cher maître, madame la présidente de la section pénale de la Cour suprême du Cameroun, l'emblématique chambre judiciaire, monsieur le directeur de profession judiciaire à l'ENAM, je m'excuse de brûler ainsi les ordres protocolaires, excellences, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres, grades et responsabilités, vous aurez compris qu'il y avait des personnes dans la salle que je ne pouvais ne pas nommément mentionner. C'est à la fois un devoir et toujours un honneur de leur rendre hommage pour ce qu'ils ont fait pour nous. Monsieur le Président du Club des ambassadeurs de la masculinité positive, je vous remercie particulièrement pour votre aimable invitation, invitation à présenter ici en quelques mots un sujet ou en tout cas une question sur les enjeux du féminisme et la prise en compte de la notion de victime spécifique dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cher Ulrich, je te remercie beaucoup pour cette agréable invitation. Mesdames et messieurs, peut-être avant d'aller dans mon propos, je tiens à présenter aux organisateurs mes sincères excuses. Ma masculinité cette matinée n'a pas été très positive. Je suis arrivé avec beaucoup de retard. Je m'en excuse pour cela. Alors, il y a deux choses qui peuvent être évoquées dans la proposition de thème qui m'a été faite pour parler de cette question importante, profonde, à la fois de notre société et aussi de notre époque, les violences faites aux femmes et aux filles. Et donc l'approche qui est abordée aujourd'hui, celle de la masculinité positive. D'abord la question du féminisme. Dans la salle, vous êtes mieux placé que moi pour dire ce que c'est. Comme tous les ismes, le féminisme s'affirme de plus en plus comme une idéologie qui se caractérise par un ensemble de mouvements sociaux, politiques, d'idées philosophiques visant à atteindre l'égalité politique, économique, sociale, juridique entre les hommes et les femmes en luttant contre le sexisme, l'exploitation et l'oppression des femmes. Il cherche à abolir les inégalités de genre et à transformer les structures patriarcales avec divers combats. Le lieu n'est pas de les mentionner ici. Et de l'autre côté, il y a la victimologie. La victimologie qui est une branche de la criminologie qui, dans un premier temps, s'est proposée d'étudier la figure de la victime. Vous comprendrez le lien qu'il y a entre le féminisme et la victimologie. Qui s'est donc proposé d'étudier la figure de la victime. Il y a eu, dans un premier temps, ce que l'on a appelé la première victimologie, celle qui s'est intéressée au rôle ou à l'action de la victime dans le processus de passage à l'acte, dans la production du crime, dans ce que les criminologues ont appelé l'étiologie du crime. Et il y a eu la deuxième victimologie, celle qui s'est proposée d'explorer les voies et moyens pour apporter une réponse à la souffrance, aux dommages, aux préjudices subis par la victime. La victime elle-même étant donc présentée ou en tout cas envisagée comme la personne, l'entité ou le groupe, lorsque la victime est collective, qui subit le préjudice, qui subit le dommage, qui subit la souffrance physique, psychologique et autres. Et donc ici, dans notre propos, la femme et la fille sont présentées comme des victimes. Et ce qui est intéressant, c'est le lien qu'il y a entre le féminisme et la victimologie. Ce lien a contribué à façonner, à transformer la victimologie, de sorte que l'on est passé de la réflexion sur la victime, sur son rôle, comme nous l'avons dit, ce qu'on a appelé la victimologie de l'acte, vers la victimologie de l'action, une victimologie centrée donc sur le rôle et les prédispositions victimogènes de la personne lésée. Alors, le mouvement est né aux États-Unis dans les années, précisément à l'année 1980, lors du Congrès international de la victimologie, qui s'est tenu donc à Washington. Et lors de ce congrès, il y a eu le mouvement féministe qui a occupé une part importante des activités du congrès. La moitié, on peut dire, des contributions de ce congrès était donc axé sur les idées du mouvement féministe. Et partant donc de ces mouvements, de ces idées, il y a eu une mise en scène dans les violences, en tout cas dans l'idéologie féministe, il y a eu une mise en scène de ce que l'on a appelé le couple criminel-victime. Et une partie de la doctrine a développé d'abord le concept de victime catalyseuse. C'est la victime qui va instiguer, qui va initier, qui va provoquer, qui va faciliter ou qui va favoriser le crime. Et d'autres auteurs, criminologues aussi, ont présenté ce qui va nous intéresser par la suite tout à l'heure, c'est-à-dire les situations qu'on appelle en criminologie les situations spécifiques, les situations dites dangereuses. Des exemples peuvent être pris, la situation pré-incestueuse du père de famille qui a cessé toute activité sexuelle conjugale avec son épouse et qui se retourne donc vers ses filles. La situation du tourmenteur d'épouse qui pousse la femme à tuer son mari. Et nous pouvons prendre l'exemple de ce que nous avons suivi dans l'actualité française, l'affaire Jacqueline Sauvage, qui est la situation de cette femme qui finalement causera la mort de son époux parce que celui-ci exerçait des violences à la fois sur elle et sur ses filles. Et le premier élément qui va être intéressant ici, c'est le concept que ce mouvement féministe a mis en exergue, le syndrome de la femme battue, donc de la femme qui subit les violences. Et ce syndrome a conduit, par exemple au Canada, à l'élargissement de la notion de légitime défense. Il y a eu une idée qui a été défendue selon laquelle il y a une sorte de légitime défense préméditée, dans la mesure où nous parlerons de ça tout à l'heure. Et à côté de ça aussi, il y a un autre exemple que l'on peut prendre, toujours de ces mouvements de la criminologie, notamment les idées d'un criminologue intéressant, le Suédois Olof Kimber, qui nous permet de lire autrement la situation, par exemple, des viols de Mazan en France, l'affaire Pellicot. Vous vous souvenez de cette actualité dans laquelle une femme a été victime de drogue, elle a été soumise par son époux, et puis il y a d'autres personnes qui ont été indiquées. C'est devenu une affaire de viol collectif que l'on a appelé les viols de Mazan. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons ces petits rappels? C'est davantage pour fixer la notion de victime spécifique. C'est-à-dire que le mouvement féministe a introduit en criminologie et plus précisément en victimologie une réflexion sur la victime. L'on est parti donc sur l'identification et la catégorisation des victimes pour aboutir donc à la notion de victime spécifique. L'intérêt de cette notion dans le débat que nous avons aujourd'hui, le développement de cette masculinité positive, l'intérêt c'est que l'on part de l'idée, ou en tout cas l'on souhaite avancer l'idée selon laquelle, pour réfléchir, je m'excuse d'un point de vue juridique, il y a des réflexions sociologiques, anthropologiques, historiques, qui peuvent aussi davantage éclairer le mouvement, mais d'un point de vue juridique, dans la recherche de la manière avec laquelle on peut construire la réponse pénale, la notion de victime spécifique présente un triple intérêt. Le premier intérêt est que la victime spécifique, telle qu'elle est envisagée par le mouvement féministe, je précise bien que c'est l'idéologie féministe qui a introduit cette réflexion en criminologie, en victimologie, la victime spécifique se présente d'abord par sa vulnérabilité. La vulnérabilité qui peut résulter de l'existence d'un lien de subordination, un lien professionnel de subordination, c'est donc la situation de la femme ou de la fille en milieu professionnel qui va devoir gérer le lien de subordination avec sa hiérarchie, avec son patron. Ça, c'est le premier élément, la situation de vulnérabilité. Et la plupart des femmes et des filles se retrouvent dans cette situation de vulnérabilité qui va donc être exploitée, qui va être mobilisée par les hommes. Le second élément, le second trait de cette victime spécifique, c'est la situation de connaissance du criminel. Le criminel, entre guillemets, nous ne parlons pas des criminels ici, mais nous parlons des auteurs de violences, des violences faites aux femmes et aux filles. Et la situation de connaissance, c'est celle dans laquelle, ou en tout cas celle qui révèle que la femme et la fille se retrouvent presque toujours dans des situations où ils connaissent l'auteur de leur violence. C'est l'hypothèse donc des violences conjugales, où c'est l'époux qui va exercer des violences. Ça peut être des violences psychologiques, nous avons parlé du milieu professionnel tout à l'heure, ça peut être des violences purement familiales, le père, lorsqu'on est dans des situations d'inceste. Et le troisième trait, qui est peut-être le trait le plus problématique, c'est la situation de consentement présumé ou consentement quasi acquis, dans le sens où la femme et la fille se retrouvent dans la relation criminelle-victime presque toujours comme consentant. C'est vraiment une situation de consentement quasi acquis. Quasi acquis parce que c'est un consentement qui va être présumé par l'auteur des violences comme ayant été exprimé. L'hypothèse donc dans une relation de travail, lorsque la femme ou la fille reçoit un message de son patron auquel elle va répondre spontanément, une invitation au restaurant à laquelle elle va répondre spontanément. Après, la question lui sera posée de refuser les avances qu'elle a imprudemment elle-même provoquées. Et donc, l'auteur des violences se retrouve donc dans cette position de consentement acquis de la femme, de la fille, qui est donc ici la victime spécifique. Donc, ces trois éléments, la situation de vulnérabilité, la situation de connaissance de l'auteur des violences et la situation de consentement présumé ou acquis, finissent donc par révéler cette catégorie spécifique, cette catégorie de violences, de victimes spécifiques. Alors l'intérêt de la notion pour notre débat, c'est de se demander si la figure de victime spécifique ne pourrait pas être le concept central dans la réflexion en cours sur l'élaboration d'un droit pénal, de la formulation de la réponse juridique, pas seulement la réponse pénale, mais la réponse juridique face aux violences faites aux femmes et aux filles. En d'autres termes, comment est-ce que l'on peut mobiliser le concept de violence de victime spécifique pour adresser au mieux, d'un point de vue juridique, la réponse à ces violences? Nous allons évoquer très rapidement pour terminer deux points. Le premier point, c'est celui de la place du consentement dans la réponse juridique qui va être formulée, la place du consentement. Est-ce que l'on va redéfinir le consentement qui comprend aussi la question, par exemple, de l'âge, le seuil de l'âge? Vous savez, dans certaines législations aujourd'hui, on fixe le seuil de l'âge pour dire que en deçà d'un certain âge, indépendamment de l'expression du consentement, il y a violence lorsque certains actes sont posés ou sont perpétrés. Notre code pénal s'inscrit dans cette logique parce que vous connaissez les infractions d'outrage à mineurs de 13 ans, de 16 ans. Mais est-ce que l'on peut aller un peu plus loin dans la formulation de ce consentement, dans l'exigence de ce consentement? Vous savez, cette question a été au centre de l'incrimination spécifique de viol entre conjoints parce que la situation de conjoint est donc une situation de présomption de consentement. Mais il y a certains États, à la faveur des instruments internationaux, notamment la Convention des Nations Unies sur l'élimination des violences faites aux femmes, qui oriente la réflexion dans ce sens. Et à côté de nous, nous avons le Gabon qui a réformé son code pénal en introduisant donc une incrimination spécifique de viol entre conjoints. Dans le droit pénal camerounais, l'incrimination n'existe pas de façon explicite, mais cela n'empêche pas que la qualification de viol puisse être retenue. Mais la difficulté va être dans la perception de ce consentement, dans l'exigence de ce consentement. Donc, en prenant en compte les trois éléments qui caractérisent donc la fille, la femme et la fille, qui en font donc une victime spécifique, on pourrait ouvrir donc une réflexion sur cette question de consentement. Le second point que nous pouvons évoquer ici, c'est la réparation des dommages causé donc dans le cadre de ces violences spécifiques. En d'autres termes, la prise en charge de ces filles et de ces femmes victimes de violences, les carrières qui sont brisées, des vies qui sont brisées, des familles entières qui sont brisées en raison donc de ce phénomène. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, je regarde le signe des organisateurs, les quelques éléments de réflexion que l'on pouvait présenter Comme je l'ai dit, je remercie le président du club, les ambassadeurs. Je reste totalement disposé. C'est une cause commune, comme je lui avais dit. C'est une cause commune, c'est une cause générale et donc à laquelle nous aussi nous souscrivons entièrement. Voilà un peu, mesdames et messieurs, excellences, madame le ministre. J'espère ne vous avoir pas déçu et je vous remercie pour votre aimable attention.
Merci beaucoup, professeur Tonotti Germain. Par ailleurs, conseiller technique, directeur de l'Université Yaoundé de Soie, nous avons énormément appris grâce à cette leçon inaugurale. À présent, excellences, mesdames et messieurs, nous allons aller à la découverte d'un intermède artistique et culturel avec la slameuse, elle précise bien, c'est la slameuse. Elle va venir nous dire un peu comment ça se passe, comment elle comprend le concept de la masculinité positive. MGD La Slameuse, you have the floor.
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Si vous pensez que là est la fin de l'histoire, détrompez-vous. C'était là le début d'un nouveau chapitre. Combien de temps a duré ce bonheur? Honnêtement, je ne sais pas. Quand est-ce que cela s'est transformé en horreur? Il m'a fait voir de toutes les couleurs, mais j'en ai pas un beau tableau. Il m'a jeté la première pierre, mais j'ai bâti mon estime dure comme fer. Alors aujourd'hui, j'élève mes vers à l'honneur de ces femmes braves dont le prix ne peut être estimé. J'élève mes vers à l'endroit de ces hommes brisés, confus et incompris. J'élève mes vœux en faveur de ces enfants qui sont opprimés afin que l'amour et la paix soient leur partage. Ce n'est pas le voie bébé, mais je m'y suis quand même aventurée. Au départ, c'était « je suis fou de toi ». Au final, c'est devenu « je m'en fous de toi ». Et là, je me suis dit que si j'avais su, j'aurais signé ce papier en crayon. Car cet anneau que je brandissais tout haut, aussitôt s'est transformé en barreau. Prise de coups, rouée de coups chaque jour à y penser, peut-être la corde nouée au cou en valait le coup, mais je me devais de tenir le coup, bien que prise jusqu'au cou, pour ces bouts de choux qui n'avaient que moi comme tout. Interdit de parler, interdit de partir, interdit de me plaindre, interdit de pleurer à cause du regard de la société. Mais aujourd'hui, j'élève mes vers à l'endroit de ces hommes brisés, confus et incompris. Je lève mon verre à l'honneur de ces femmes braves dont on n'a pas le prix. J'élève mes vœux en faveur de ces enfants qui sont opprimés afin que l'amour et la paix soit leur partage. Comment se taire? Ne faire aucun commentaire quand ces personnes qui nous sont chères souffrent de là de leur chair. Comment se taire? Comment se taire? C'était assez difficile de voir papa montrer sa masculinité avec ses cours sur maman et que le destin, le karma a suivi son coup. Mais aujourd'hui, je regarde en arrière et je constate que maman, qui étouffait, a tout fait pour que sa progéniture soit heureuse. Et aujourd'hui, j'élève mes vers à l'endroit de ces hommes brisés, confus et incompris. Je lève mon verre à ces femmes braves qui n'ont pas de prix, qui méritent tellement plus. Je lève mes vœux en faveur de ces enfants opprimés afin que la paix et l'amour soient leur partage. MG de la Psy, la Muse. Merci. Alors, bien plus qu'un texte, c'est le vécu de beaucoup de femmes qui souffrent dans les foyers pour leurs enfants, qui arrivent même jusqu'à perdre leur identité. Mais là n'est pas la question de se battre pour dire chaque jour « Stop, arrêtez les hommes de battre sur les femmes !» Mais il est temps de comprendre les rouages. Pourquoi est-ce que ces hommes sont violents? Et là, on comprend que il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses, il y a un vide sous roche. Et lorsqu'on regarde jusqu'à l'enfance de l'homme, on comprend que c'est juste une façon d'exprimer leurs émotions. Et là, on parle de mauvaise gestion d'émotions. Merci.
Excellences, mesdames et messieurs, on ne se compte pas encore encourager à clamer. Thank you very much. Right away, we want to invite Mr. Kamwa from Vital Strategy. He's going to give us a brief presentation of the situational analysis of violence against women and girls. Mr. Kamwa, you have the floor.
Bonjour à tous, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses. Aujourd'hui, l'immense est l'honneur qui m'a été donné de restituer ce travail qui a été commis par l'ensemble des partenaires impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et les chiffres qui vont vous être présentés aujourd'hui sont graves. Ces chiffres ne parlent pas d'une absence de masculinité, mais ils parlent d'une fausse masculinité. Et donc, si vous êtes ici, c'est parce que le Cameroun a besoin d'hommes qui refusent la toxicité. Pas par culpabilité, mais par responsabilité et surtout par liberté. Next, please. Donc, la présentation que je vais vous faire va revenir sur un ensemble de travaux que nous avons mis en œuvre et qui se décline en trois outils. Mais tout d'abord, il faut partir du contexte. Le contexte, vous le connaissez, globalement, en 2025, toutes les 10 minutes, une femme décède due à une violence basée sur le genre. Et le Cameroun n'échappe pas à cette tragédie mondiale. Et donc, la réalité, c'est 39% de femmes victimes de violences basées sur le genre. 46% d'auteurs identifiés comme des conjoints et 73,7% identifiés comme des partenaires intimes en ce qui concerne les violences sexuelles. Et donc, ceci interpelle notre responsabilité. On parle de femmes et de filles, mais il est question, en libérant ces personnes, de nous libérer nous-mêmes et de parvenir à une transformation collective qui est bien plus urgente aujourd'hui. Et donc, il s'agira pour nous ici de respecter ces quatre points. Le premier point, c'est l'écoute à travers tout ce qui sera dit, non pas pour défendre, mais véritablement pour écouter. Le deuxième point, c'est de se questionner, mais le faire de façon honnête. Ensuite, de nous engager personnellement et de parvenir à une transformation collective. Next, please. Donc, ces outils, pourquoi ces outils vous sont présentés aujourd'hui? Parce que nous faisons face à un défi immense. Nous avons une réponse fragmentée face à un problème systémique. La violence est devenue quelque chose de quasiment banal dans notre société. Et donc, il est important pour avoir une réponse, adopter une réponse bien systématisée face au problème, d'avoir une information fiable. Mais nous faisons encore face à des systèmes de collecte de données non harmonisés. Il y a différents outils qui interviennent dans différents domaines qui rendent difficile l'information intégrée au niveau de la prise de décision. Nous avons des services dispersés qui ne sont pas suffisamment intégrés pour avoir une réponse coordonnée. Nous avons encore des cas non documentés, que ce soit des féminicides ou encore plus des cas liés à la violence numérique. Et donc, tout ceci contraint notre réponse à être pas assez proactive et à ralentir les progrès que nous pourrons enregistrer face à ce problème. Et plus loin encore, les données habituellement utilisées sont obsolètes pour la plupart des cas issus de l'enquête démographique et sociale de 2018. Et donc, qu'est-ce qui a été fait par l'ensemble des partenaires, gouvernementaux et non gouvernementaux? C'est une solution en trois outils. Next, please. Donc, ces trois outils, en quoi consistent-ils? Le premier outil, c'est ce rapport d'analyse situationnelle qui a été produit en août 2025. Et ce rapport d'analyse situationnelle que vous pouvez consulter à travers ce QR code a pour but d'informer de façon globale, avoir une image assez représentative de l'ampleur du phénomène au niveau national, mais également d'insister sur les déterminants structurels. Pourquoi est-ce que nous avons ce problème? Quelles sont les causes profondes associées à la perpétuité de ce problème? Ensuite, on a insisté sur les conséquences multidimensionnelles. Elles ne sont pas seulement liées à la victime ou à la survivante, mais elles impactent la société tout entière. Et enfin, la réponse institutionnelle actuelle. Voir tout ceci pourrait nous laisser croire que rien n'est fait, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont déjà faits et qui pourraient être améliorés dans le futur. Next, please. Et donc, la synthèse des résultats de cette analyse situationnelle, elle nous dit, en 2024, on a enregistré 6626 cas de violence basée sur le genre au Cameroun, tout type confondu. Et une femme sur trois est victime de violences physiques. Les régions de l'extrême nord et du sud-ouest sont les plus affectées par ce phénomène. Et 97% des survivantes en contexte de crise sont des femmes. On a également noté que le déni de ressources est la forme la plus documentée. Les femmes qui sont, ou les survivantes qui sont en absence de capacité économique font face à ce problème. On note quand même une baisse significative des violences physiques entre 2011 et 2018, mais il reste néanmoins que 30% des femmes âgées de 20 à 24 ans sont mariées avant l'âge de 18 ans. Donc, tous ces chiffres nous interpellent. Ils sont assez graves. Ils reflètent une réalité qui doit nous interpeller sur la responsabilité de chacun d'entre nous face à ce phénomène. Next, please. Le deuxième outil sur lequel nous avons travaillé, c'est cette fiche harmonisée de collecte de données sur les violences basées sur le genre. C'est un outil qui est un consensus entre tous les partenaires gouvernementaux, toutes les sectorielles, ainsi que les partenaires non gouvernementaux. C'est un outil représenté en trois sections qui est censé collecter les informations essentielles à la prise de décision sur les survivantes ou les victimes, afin de pouvoir informer les décideurs en quasi-temps réel sur la survenue d'un événement, sur sa gestion et sur les mesures recommandées pour pouvoir y faire face. Cet outil peut être utilisé à tous les points d'entrée, c'est-à-dire toutes les structures qui ont l'habitude de recevoir les victimes et les survivantes. Et donc, son architecture est présentée telle que vous voyez affichée. On a une première section qui va collecter les informations sur la victime, l'incident et l'environnement dans lequel l'événement s'est produit. La deuxième section va porter sur les services de prise en charge qui ont été fournis à la victime tout au long de sa gestion. Et enfin, la troisième section, qui est quelque peu une innovation, c'est le suivi et l'issue de la gestion de la victime. On veut savoir au bout qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce que nous avons conclu à la suite de la gestion de cette victime. Est-ce qu'on a pu au moins apporter une réponse ou alors la gestion du cas est restée pendante. Et cet outil également, il est accessible à travers le QR code que vous voyez affiché. Next, please. Le troisième outil, c'est véritablement celui sur lequel on va accorder beaucoup plus d'importance. C'est cette plateforme numérique d'information sur les violences basées sur le genre. Il s'agit en fait de la digitalisation de la fiche que je viens de vous présenter, qui ici va numériser toutes les informations qui auront été collectées sur les victimes et les survivantes, et elles seront toutes centralisées à un endroit géré par le gouvernement, et certaines informations pourraient être diffusées au grand public pour les informer sur la situation nationale en ce qui concerne ce phénomène. Cette plateforme est accessible également à travers cette adresse www.gbv.cm ou en scannant ce QR code. Donc nous vous invitons fortement à la consulter de temps à autre si vous êtes à la recherche d'informations. C'est une plateforme nouvelle qui a été mise en place dans le cadre d'un projet pilote il y a de cela 2 mois. Donc, progressivement, elle va être nourrie d'informations qui pourront être, au fur et à mesure, assez représentatives du phénomène au niveau national et proche de la réalité. Next, please. Bien, une fois que nous avons tous ces outils, que nous nous retrouvons ici aujourd'hui, il est véritablement question de profiter de cette occasion pour faire un appel à l'action. Mais appel à quelle action? La première action, c'est l'utilisation. Nous encourageons fortement tous les acteurs que vous êtes, à tous les niveaux où vous êtes, à être des sensibilisateurs, des agents de plaidoyer pour l'utilisation de ces outils gouvernementaux. Que ce soit la fiche de collecte des données harmonisées, que ce soit la plateforme numérique, mais également consulter le rapport d'analyse situationnelle qui, pour cette fois, nous donne des données assez récentes, pas issues de l'enquête démographique et sociale, mais vraiment des données de routine, des données administratives sur l'ampleur du phénomène. Le deuxième point, en ce qui concerne cet appel à l'action, c'est le partage. On souhaite vraiment que ceci soit quelque chose de public, de diffusé et de connu de tous. Le problème, il est grave. On ne souhaite pas qu'il soit caché. Il doit être connu de tous. Et c'est le seul moyen par lequel chacun de nous pourra saisir véritablement l'ampleur de ce phénomène. Le troisième point, c'est la collaboration. Le problème ou la situation, le phénomène des VBG est assez grave pour inciter la collaboration entre tous les acteurs, publics, privés, non gouvernementaux, tous les acteurs de toutes les sectorielles. On doit avoir une riposte coordonnées, mais surtout intégrées, qui prennent en compte tout le monde pour être sûr que nous parviendrons à plus d'impact. Et enfin, le dernier point de cet appel à l'action, c'est véritablement l'action. Nous faisons beaucoup d'efforts actuellement. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en œuvre, mais il faudrait qu'on aille encore plus loin. Il faut agir. Que ce soit au niveau micro ou au niveau macro, il faut agir dans nos familles, dans nos communautés et même au niveau de notre société, de notre pays, il est question d'agir. Next, please. Donc, je vais terminer cette présentation par cette dernière diapositive sur l'engagement multisectoriel. Ici, cet engagement multisectoriel ne consistera pas non seulement à réunir les différentes sectorielles, mais véritablement à avoir une stratégie de gouvernance et de leadership, d'action avec les acteurs de la société civile, d'internationalisation de notre appui, mais aussi et surtout d'utilisation des données pour la prise de décision. Et donc, je vais conclure ce propos en vous disant, ces chiffres qui vous ont été proposés sont nombreux et ils vous ont révélé à quel point il est important de comprendre que la force, ce n'est pas la domination, que l'amour, ce n'est pas le contrôle, que la virilité, ce n'est pas l'absence d'émotion. Tout ceci n'est pas vrai. La vraie force, c'est de protéger les faibles. La vraie virilité, c'est d'être capable d'aimer sans dominer. La vraie puissance, c'est de transformer les blessures en guérison. Au Cameroun, en 2024, 67 femmes ont été tuées par leurs conjoints. Et aujourd'hui, les pères, les maris, les frères que nous sommes doivent être des agents protecteurs pour que cela ne se reproduise plus. La masculinité positive n'est pas un luxe, c'est une urgence. C'est un devoir et elle devra être un héritage. Je vous remercie.
Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, I guess we are all eager to know what positive masculinity is all about. So without wasting much time, I'm going to invite right away the president of the Club of the Ambassadors of Positive Masculinity, the magistrate, Ulrich Obono. He's going to tell us more about what positive masculinity is all about.
Alors, il paraît que c'est le moment fatidique. Tout le monde est venu pour savoir c'est quoi la masculinité positive. Mais avant de commencer, je voudrais, Madame la Ministre, vous remercier pour l'accompagnement, pour votre présence, pour toutes les commodités, pour vos disponibilités, pour votre humilité surtout. Vous êtes arrivé tout à l'heure à pied, vous êtes parti de votre bureau à pied pour ici. On vous a vu arriver, on attendait le véhicule et on vous a vu arriver à pied. Merci beaucoup. Cet engagement dans lequel vous m'avez, j'ai envie de dire, un peu attiré, est très important, pas seulement pour vous, tel que vous me l'aviez dit, mais il est aussi important pour moi. Je vais commencer donc, avant de dire c'est quoi la masculinité positive, par répondre à une question qui m'a été posée tout au long de la semaine. Parce que nous travaillons à préparer l'organisation avec les journalistes. Et tous les journalistes m'ont posé la même question. Monsieur le procureur de la République, cet engagement pour les femmes, il vous vient d'où? J'ai toujours été très timide sur la réponse à apporter. J'ai toujours essayé d'avoir une forme de pudeur. Mais l'insistance ou la persistance à voir revenir cette question m'oblige à devoir y apporter une réponse et j'ai choisi de le faire à ma manière. Vous vous habituez déjà au fait que je ne fais jamais les choses très simplement ou alors parce que je l'ai fait très simplement, je crois que ma simplicité est finalement une forme de sophistication. Je voudrais, pour y répondre, profiter également pour rendre hommage à la personne qui a fait créer en moi ou qui a fait naître en moi cet engagement. C'est un poème que j'ai écrit pour ma mère, vous avez donc compris que l'engagement vient de ma mère, à la date anniversaire de son décès. Je voudrais vous en donner lecture. Le titre du poème, c'est « Cette femme ». Je ne me souviens point l'avoir vue se reposer. De jour comme de nuit, je la voyais travailler. Elle faisait des beignets à un moment pour estomper notre faim d'enfant. Elle faisait des sucettes qu'elle revendait, sucettes qui maintenaient chez nous la paix. Elle n'éprouvait aucune crainte à se salir, jamais elle ne songeait à s'endormir. Toujours à la recherche d'une solution, toujours à la quête de la bonne équation. Ah, cette femme, l'une de celles qui simulent la flamme. Elle faisait des enfants sa priorité, elle s'activait pour leur prospérité. Et lorsque le besoin se faisait ressentir le soir, elle n'hésitait pas à prendre la route dans le noir. Et lorsque la misère la tenaillait, auprès de ses amis, elle allait. Elle s'attelait à sa tâche, elle s'y adonnait sans relâche. Elle se plaisait à servir les siens, sa joie était de les savoir bien. Cette femme était valeureuse, cette femme était généreuse. Cette femme a su jouer son va-tout. Cette femme était vénérée de partout. Cette femme, c'était ma mère. Je suis heureux de la savoir auprès du Père, où elle savoure dans la céleste félicité les joies de la divine éternité. Voilà le poème que j'ai écrit pour ma mère. Et quand vous l'écoutez, vous pouvez imaginer l'intensité de l'affection que j'avais pour cette femme qui m'a mis au monde et qui est morte à l'âge de 30 ans. C'est très jeune. Pourquoi je reviens sur cet épisode? Ma mère a dû être déscolarisée parce qu'elle m'a pensé. C'est-à-dire que ma mère a abandonné ses études parce qu'elle avait conçu de l'enfant que je suis. Je me faisais encore la réflexion ce matin. Est-ce qu'elle est quand même fière de ce que le produit de celui qui a rompu la chaîne de ses études est devenu? Comment peut-on comprendre dans notre société que lorsqu'un garçon prend le chemin de la délinquance, on fait tout pour le ramener sur le droit chemin, mais lorsqu'une femme conçoit, il faut qu'on la sorte de l'école? Ça fait partie des injustices pour lesquelles j'ai décidé de me battre, contre lesquelles je me bats. Je me bats contre cette injustice qui déscolarise l'enfant, je me bats contre cette injustice qui laisse violenter une femme, je me bats contre cette injustice qui empêche, qui fait un plafond de verre et qui empêche les femmes d'accéder à d'autres fonctions simplement parce qu'elles sont femmes. Le seul hommage qui me reste peut-être aujourd'hui, Madame la Ministre, je ne vous l'avais jamais dit, c'est celui-là. Pouvoir au moins me battre pour des femmes, comme je l'aurais fait pour ma mère, mais je le fais aujourd'hui pour les autres. Je pense que les journalistes qui sont là sont satisfaits. Ils ont au moins la réponse à la question qu'ils m'ont posée pendant toute la semaine. Maintenant, la masculinité positive, qu'est-ce que c'est? Je vous propose une communication. Revenez sur le plan pour qu'on se suive de manière synchronique. Voilà. Je vais commencer par dire ce que la masculinité positive n'est pas. C'est important, parce que depuis 2 mois, on a tout entendu. Il faut qu'on puisse dire ce que ce n'est pas. Ensuite, on dira ce que c'est. Madame la ministre est là pour nous corriger si nous avons bien compris la mission. Nous allons décliner les principaux piliers de notre action. Nous n'allons pas faire la présentation du plan d'action, qui est quand même triennal. Et donc, si on commençait, ce serait très long. Donc, on vous définira les principaux piliers. Et on va quand même atterrir sur les projets. Les grands projets que nous pensons devoir pouvoir réaliser au bout des 3 ans de ce premier mandat. Quand? Alors, la masculinité positive, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas un club d'hommes efféminés. Commençons par là, parce qu'on a entendu ça. Ce n'est vraiment pas un club d'hommes efféminés. On est d'accord au moins? Voilà. 2, la masculinité positive n'oppose pas les hommes entre eux. Il n'y a pas d'un côté les hommes qui sont bons et de l'autre les hommes qui sont mauvais. Il n'y a donc pas des masculins positifs et des masculins négatifs. Nous sommes dans un itinéraire, dans une trajectoire qui vise, comme nous l'avons dit, qui vise une complicité, une complémentarité entre les hommes et les femmes. Et nous verrons quel est le point de chute de cette complémentarité que nous recherchons. Autre chose, la masculinité positive ne favorise pas l'homosexualité. Vraiment, il faut qu'on soit clair, parce qu'on a tout entendu. Ce n'est pas un nouveau véhicule pour les LGBTQ, non. Ce n'est pas un véhicule pour les questions de promotion. Nous sommes dans un pays qui a une loi que nous respectons, et dans ce pays, l'homosexualité est une infraction. Donc, la masculinité positive n'a pas vocation à devenir un véhicule de promotion ou de vulgarisation de l'homosexualité. Alors, c'est quoi la masculinité positive? Quand? Bien, commençons par ces images-là. On a 3 images. La masculinité positive, c'est stimuler une saine complicité entre les partenaires intimes. On parle de stimulation, on parle de complicité. Il n'y a donc pas un conflit. Lorsqu'on prend l'analyse situationnelle qui a été présentée tout à l'heure, lorsqu'on prend les enquêtes démographiques de santé 2011, 2013, 2018 ou les études de l'INS, on se rend quand même compte dans les données qu'il y a un nombre incroyable de femmes qui ont été violentées parce qu'elles ont eu une opinion défavorable ou alors une opinion contraire dans le cadre d'un échange avec leur partenaire. C'est-à-dire qu'elles ont une opinion contraire, ça finit en violence. Tous les jours, dans les bars, les hommes sont en désaccord, ça ne finit pas en bagarre. Qu'est-ce qui amène les hommes à exercer des violences dès lors que leur partenaire intime a une opinion différente? Ce sont des aspects que nous allons examiner, regarder, mais l'objectif pour nous, et nous avons bien compris que la masculinité positive, c'est de stimuler une saine complicité entre les partenaires intimes quand. La masculinité positive, c'est aussi développer les valeurs d'empathie chez les hommes. Nous avons trois images. Nous avons l'image de deux jeunes personnes, nous avons l'image d'un enfant et de sa mère, nous avons l'image d'un garçon et de son père. Très honnêtement, lequel d'entre nous, je prends la dernière image, le fils et son père, lequel d'entre nous, parents, ne souhaiterait pas avoir cette relation dans les derniers jours avec son fils? Tous les parents, hommes ou femmes, souhaitent avoir une telle relation avec leur fils. Ils souhaitent avoir un enfant qui s'occupe d'eux dans les derniers jours. Mais lorsqu'on a éduqué un enfant en bridant son empathie, un homme ne pleure pas, un homme est fort, un homme est toujours debout. À la fin de la vie, quand on a cet âge, on ne doit pas être surpris de ce que l'enfant se contente de faire un chèque, encore heureux, ou qu'il attende simplement le corbillard pour aller enterrer. On a bridé en lui son empathie et on doit pouvoir gérer les conséquences. Donc la masculinité positive, c'est aussi libérer cette empathie-là chez les hommes. Et pour cela, nous avons dans le club des ambassadeurs le professeur Vunda Etoua, qui s'est excusé aujourd'hui, avec lequel nous sommes sur un travail de revue des manuels scolaires. Nous faisons une revue des manuels scolaires pour identifier dans les manuels scolaires quels sont les stéréotypes de genre. Les enfants qui grandissent avec des stéréotypes, comment est-ce qu'on peut corriger à travers l'instruction et l'éducation ces biais qui finissent par devenir des biais cognitifs? Quand? Alors, la masculinité positive, j'adore cette image, c'est assumer sa fragilité en tant que personne humaine. Un homme est une personne humaine, un homme est fragile. Un homme peut pleurer. On ne peut pas dire à un homme de ne pas pleurer. Un homme est fragile. Un homme a des émotions. Je ne sais pas, peut-être, on me démentira, peut-être, il y a des scientifiques dans la salle. Je ne sais pas s'il n'y a pas de larmes dans le corps de l'homme. Je pense quand même que si Dieu a mis des larmes dans le corps de l'homme, c'est que ça serve à quelque chose. Donc, on ne peut pas toujours être en train, et on le voit plus loin, et c'est pour ça que je mets l'image de ce livre, que je trouve être l'un des livres les plus intéressants sur la question, Olivia Gazalet, Le mythe de la virilité, un piège sur les deux sexes. La virilité est un piège. La virilité est finalement un piège. Parce que quand on a dit à un homme qu'il est le pourvoyeur, pourquoi est-ce qu'on se plaint lorsque les femmes nous demandent tout le temps de l'argent? La société a construit l'idée selon laquelle l'homme apporte de l'argent, l'homme pourvoit aux besoins. Si on avait éduqué les gens différemment, en leur disant chacun supporte, chacun apporte sa contribution, on éduque l'homme à être le pourvoyeur, on éduque la femme à attendre que l'homme apporte. La vérité, j'étais récemment en Gougou, je salue la représentante de Madame le Préfet qui m'a appelé pour signaler votre arrivée. Et nous étions ensemble et j'ai posé la question de savoir, en faisant un renforcement de capacité des acteurs, qui a déjà tapé sur une femme. Et quelqu'un a levé la main, il a dit « moi j'ai déjà tapé sur ma femme ». Alors on lui dit « pourquoi ?» Il dit qu'il voulait se défouler. Donc, il voulait se défouler. Donc, voilà, c'est des réponses qui peuvent être anecdotiques, mais c'est des réalités avec lesquelles on évolue et il dit non, moi je l'ai doté, j'ai payé les ports, j'ai ceci. Comment ça fait que quand je demande quelque chose, je ne me donne pas? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut pouvoir déconstruire. Le travail est immense. Suite. Alors, enfin, la masculinité positive, c'est aussi et surtout la parenté responsable. Alors, je pense que mes collègues sont dans la salle, collègues aînés, collègues cadets, mes camarades de promotion. Le nombre de dossiers que nous recevons, parce qu'un père ne s'occupe pas de son enfant, c'est quand même ahurissant. Quand on regarde l'enfance en détresse, j'ai travaillé à Douala avec la chaîne des enfants Saint-Nicodème, les enfants de la rue, comme on les appelle, même si j'estime qu'il n'y a pas d'enfants de la rue, tout comme j'estime qu'il n'y a pas d'enfants de père inconnu, qu'on ne naît pas d'un père inconnu, on se rend quand même compte que dans l'enfance en détresse, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'enfants qui sont issus soit de la monoparentalité, soit des foyers violents. Et donc la parenté responsable est un enjeu, c'est un vrai enjeu aujourd'hui dans le cadre de la masculinité positive. Et je salue la présence de Madame le Consul, Madame Ona, qui a accepté d'être présidente de la commission du coaching des couples. Parce qu'on en a besoin. Quand on regarde le nombre de divorces aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Peut-être parce que derrière, nous ne savons pas ce que c'est qu'être marié. On nous a dit qu'il fallait faire l'école. Je crois qu'on a fait l'école. Après, on nous a dit qu'il faut travailler. Et après, on nous a dit, maintenant, il faut vous marier. Donc, le mariage, c'est devenu une case qu'on cochait. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un apprentissage à avoir sur la notion de mariage. Voilà. Next. Alors, pour nous, la masculinité positive, c'est une complicité pour une famille épanouie parce que notre atterrissage, c'est la stabilité des familles. Lorsque les familles sont stables, la société est stable. Pour nous, c'est vraiment ça notre atterrissage. Alors, ça c'est la compréhension que nous avons du mandat et de la mission que Madame la Ministre a bien voulu nous confier. Maintenant, quels sont les piliers qui nous permettent d'atteindre cet objectif ou ces objectifs? Next. Bien. La recherche et les études. Nous venons d'achever l'élaboration des thèmes de référence d'une étude sur les déterminants de la violence masculine et la perception que les hommes ont de la question du féminisme. Le directeur Eike, qui est le président de la commission de recherche et des études, on s'emploie aujourd'hui à aller chercher les compétences où elles sont pour pouvoir asseoir une réflexion sur les causes des violences. Parce que les études que nous avons trouvées, l'étude situationnelle, les enquêtes démographiques et de santé, les rapports de l'Institut national de la statistique travaillent sur quelque chose de simple, la réalisation de la violence. Donc, on constate la violence déjà posée, déjà commise. Nous, ce que nous voulons faire, c'est aller identifier les causes profondes de la violence. Nous avons encore, c'est le directeur qui nous le rappelait, des coutumes au Cameroun où, dans le rite d'initiation du jeune garçon, à la fin du parcours initiatique, il doit taper sur une femme. Et d'ailleurs, la femme qu'il choisit est honorée d'avoir été choisie de se faire battre. Et donc, quand on dira à celui-là demain qu'il n'a pas le droit d'exercer des violences, ce sera celui qui lui dit qu'il n'a pas le droit qu'il y ait un problème. Parce qu'il a grandi dans cet itinéraire où la fin de son rite initiatique, c'est d'exercer une violence sur une femme. L'accompagnement psychosocial, on parlait tout à l'heure du coaching des couples. On parle de la prise en charge psychologique. Le professeur Tono Timi, merci d'ailleurs, vous, très cher ami, d'avoir accepté de venir nous entretenir sur cette question de victime spécifique. Nos lois ne traitent pas des aspects psychologiques. Je posais la question aux personnes qui faisaient le renforcement des capacités hier. Lorsque vous êtes magistrat du parquet et qu'une femme vient vous déposer une plainte en disant « mon mari m'a insulté, quel est votre réflexe naturel ?» Bon, unanimement, on était d'accord qu'on dit que mais toi tu diras, toi t'as seulement insulté, tu veux divorcer. Mais quel est l'effet des violences psychologiques, verbales, dans la durée? Dans la durée, quel est l'effet? Est-ce que nos lois prennent en compte ces aspects? Et pourtant, nous avons des conventions internationales que nous avons ratifiées et qui sont déjà internalisées, qui disent bien qu'il faut enrayer, endiguer le phénomène des violences, y compris les violences psychologiques. Donc nous avons un accompagnement psychosocial. Oui, la suite. Nous avons des cliniques juridiques. C'est le président de l'Assemblée générale du barreau, qui est également membre du club des ambassadeurs de la masculinité positive, il en est le vice-président, coordonne l'activité des cliniques juridiques. Hier, nous avons eu une activité très intéressante pour avoir rapidement un pool de bénévoles sur l'ensemble des 10 régions qui peuvent être des référents sur les accompagnements juridiques. Tout à l'heure, on va leur remettre leurs attestations de participation. Mais nous pensons qu'il y a une réponse juridique à apporter parce que malheureusement, on a un problème en termes d'accès au droit. Tout le monde n'a pas accès au droit, tout le monde n'est pas forcément éduqué au droit. Et dans cet analphabétisme juridique, là, il y a un biais qui profite à l'auteur des violences. Donc, il faut un accompagnement juridique sur les territoires Et je remercie et félicite mes collègues, mes amis avocats qui ont accepté d'être bénévoles pour cette cause et qui ont accepté hier de suivre un renforcement de capacité pour accompagner cette vision et cette mission. Nous avons naturellement la sensibilisation et la mobilisation sociale qui va se poursuivre. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur du CIDIMUC, pour votre présence. Merci énormément parce que vous êtes un acteur majeur avec lequel nous entendons travailler. J'ai vu la CEPCA qui également est arrivée. Il y a la conférence épiscopale nationale parce que nous avons quand même un sujet entre la culture, la religion, le genre. Et il faudrait qu'on puisse avoir une harmonisation de vue. Et puis, sur les aspects traditionnels, comme je l'indiquais hier, les magistrats sont autorisés à poursuivre des gens pour exigence de dot abusive. Mais à partir de quel référentiel on sait qu'une dot est abusive? Il nous faut avoir une harmonisation des vues sur le contenu de la dot par territoire. Parce que quand on demande, comme je le disais hier, 12 ports longs châssis pour la dot, c'est quoi? C'est un port par disciple du Christ. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'avoir... Voilà. Donc, je suis très heureux que vous soyez là parce qu'il y a un grand travail que nous voulons faire avec vous. La suite. Alors, le plaidoyer, le partenariat, ça va de soi. Et puis, un petit clin d'œil à UNFPA, le renforcement des capacités. On a commencé hier et ça va se poursuivre. La suite. Alors, quels sont nos projets? Le premier projet est à la fois une réponse à la violence, mais aussi une réponse aux besoins d'autonomisation de financement du club. Donc, c'est du 2 en 1. Nous voulons construire un centre multifonctionnel de la famille. Nous voulons construire un centre multifonctionnel de la famille. Je suis heureux de voir le représentant du directeur général de FECOM, ce directeur du Ouélé, dans la salle, parce que nous avons et nous pensons que l'accompagnement pour la construction de ce centre peut trouver un écho favorable auprès du directeur général qui est d'ailleurs Riforchi, qui est très mobilisé et très engagé sur la question de la protection et la défense des droits des femmes. Mais nous savons également que dans votre mandat, vous avez le bien-être des populations et on nous dit qu'il y a beaucoup d'argent au FECOM, donc on ne va pas se priver d'aller au FECOM soumettre ce projet. Ce projet sera à la fois une crèche, une garderie pour soulager les couples qui travaillent, un espace d'écoute, ça nous manque beaucoup d'être écouté, ça nous manque beaucoup, et un abri pour les victimes, un abri temporaire. Donc, c'est le premier projet. Le deuxième, c'est la réalisation ou la création d'un centre d'assistance téléphonique pour victimes. Je remercie les représentants d'Orange, MTN et Camtel, envoyés par leurs administrations. Nous sommes vraiment demandeurs d'un centre d'écoute parce que les gens ne veulent pas se dévoiler. Mais s'ils peuvent au moins parler à des psychologues au téléphone, s'ils peuvent parler à des psychologues, je pense qu'on aura moins de situations de burn-out, on aura moins de tentatives de suicide, ainsi de suite. Donc, cette création-là, elle est inscrite au cœur de nos projets pour les 3 prochaines années. Le dernier projet, c'est la réalisation d'un film documentaire sur la violence et ses effets. Nous voulons réaliser un film documentaire sur la violence et ses effets au Cameroun en retraçant le parcours de la violence et les inductions de la violence. Oui, la suite. Alors pour nous, le club des ambassadeurs, c'est 3 objectifs que nous poursuivons. La promotion d'un monde plus juste, la stabilité des familles, je l'ai dit tout à l'heure, et la limitation des conflits dans le couple homme-femme. La suite. Voilà. Nous pensons qu'avec le club des ambassadeurs, l'objectif final, c'est de construire ensemble et c'est de mieux construire demain. Je vous remercie de votre aimable attention.
Merci, Monsieur le Président du Club des ambassadeurs de la masculinité positive. Et le club, justement, a des partenaires, parmi lesquels l'UNFPA. Je vais inviter à présent Madame Liliane Mounet-Véro pour une brève présentation. Elle représente Monsieur le représentant résident de l'UNFP au Cameroun. Excellence, Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement camerounais, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et organisations internationales, distingués représentants des agences des Nations Unies, chers partenaires techniques et financiers, honorables chefs traditionnels et leaders religieux, chers présidents et chers membres du club, du club des ambassadeurs de la maturité positive, mesdames et messieurs, c'est au nom du docteur Justin Kofi, représentant résident des Fonds des Nations Unies au Cameroun, qui m'a d'ailleurs chargé de présenter ses excuses, que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cet événement important dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici, pas pour une cérémonie, mais pour répondre à une urgence qui interpelle la conscience collective. Pendant des décennies, le fardeau de lutte contre les violences basées sur le genre a été réservé uniquement pour les femmes. Quand on parle de violences basées sur le genre, on voit les femmes. Quand on parle de l'égalité des genres, on voit les femmes. Aujourd'hui, le club des ambassadeurs de mixité positive marque un tournant et nous affirmons que ce combat est aussi le nôtre. Il n'y a aucune fierté à construire son identité sur la domination, ni aucune dignité dans une force qui s'exerce contre la vulnérabilité. La lutte contre les violences basées sur le genre, c'est une grande priorité au sein du Fonds des Nations Unies pour la population. À travers notre programme de coopération qui commence depuis 2022 à 2026, on a un résultat transformateur qui est dédié à la lutte contre les BBG qui s'appelle « Zéro violence basée sur le genre, y compris les pratiques culturelles néfastes ». Pour réaliser ce résultat, on a pris plusieurs initiatives pour améliorer l'accès aux services pour les survivants de BBG, mais aussi un grand volet de prévention pour s'attaquer aux causes profondes qui véhiculent ces violences. C'est pourquoi nous n'avons pas vraiment hésité à accompagner cette initiative et je profite pour réitérer notre engagement à continuer à appuyer le club des ambassadeurs de la mixité positive dans la réalisation des projets qu'ils ont présentés. L'action que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans une vision politique claire. Pour l'UNFPA, la promotion des droits des femmes est un impératif de développement. C'est pourquoi nous allons accompagner toute initiative du gouvernement dans la lutte contre les BBG. L'appui de l'UNFPA, c'est la suite logique de notre engagement pour la dignité humaine. Nous avons compris que pour éradiquer les BBG, il faut transformer les racines du problème. Comme le souligne si justement notre directeur régional, Dr. Céline Houghton, la mixité positive, ce n'est pas un don fait aux femmes, c'est un investissement pour l'humanité. Je pense que parmi les présentations qu'on a pu suivre aujourd'hui, on a compris davantage. Monsieur le Président du Club des Ambassadeurs, votre mission est de transformer le discours. Passer de la simple dénonciation à la prévention active. En rejoignant ce mouvement, les hommes cessent d'être une partie du problème pour devenir le cœur de la solution. Nous passons aujourd'hui d'une culture de silence à une culture de responsabilité et de redevabilité. Que ce club soit alors un point de départ d'une ère nouvelle où la valeur de l'homme
sont mesures aussi à la sécurité qu'il apporte à son foyer et aussi à sa communauté. Vive la lutte contre les violences basées sur le genre, vive la mixité positive, vive la coopération internationale. Je vous remercie.
Excellences, mesdames et messieurs, nous acheminons très directement vers la fin de cette activité, mais maintenant nous allons inviter avec tout le respect Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille pour son discours de circonstance.
Merci beaucoup. J'ai demandé qu'on me fasse la liste de ce que je dois interpeller. La liste est tellement longue que je pense que la plupart ont déjà été interpellés. Mais je ne peux pas ne pas, ne serait-ce que mentionner certains organes. Il y a d'abord, je vais commencer par le professeur Adorno Kouassi et Madame Mabon Marie-Louise, qui a déjà été présentée, Madame la représentante de l'UNFPA, le système des Nations Unies, représentant du DG de l'ENAM, DG de la CRTV, DG du FECOM, représentant du procureur général près la Cour d'appel du Centre, président de l'Assemblée générale du Barreau du Cameroun, le professeur Ntono pour la leçon inaugurale, évidemment, le président du Club des ambassadeurs de la masculinité positive, et madame la présidente du réseau des femmes leaders pour la transformation de l'Afrique, chapitre 237, le coordonnateur général du CIDINIC, les autorités administratives, judiciaires, religieuses, traditionnelles, militaires, parce qu'on a signalé le CEPCA et puis la conférence épiscopale. Je ne peux pas ne pas remercier la personne qui représente Madame le préfet du département de la Mekou et Afana, mon préfet. Merci beaucoup. Pour lui dire merci, comme il a quand même tenu à être représenté ici. Et toutes les administrations sectorielles et les organisations de la société civile. Merci à vous tous d'avoir trouvé un peu de temps pour être avec nous. C'est donc un insigne honneur pour moi et un agréable devoir de prendre la parole ce jour à l'occasion du lancement officiel des activités du Club des ambassadeurs de la masculinité positive. Avant toute chose, permettez-moi de souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue dans cette salle de convivialité du Musée national. Votre présence en ce lieu est une manifestation concrète de l'attention particulière que vous portez à l'épanouissement et au bien-être de la femme et de la fille. Je voudrais féliciter le président du club des ambassadeurs de la masculinité positive pour le travail abattu depuis quelques mois, un très grand travail, nous permettant ainsi de lancer officiellement les activités de cette plateforme qui réunit les hommes engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles aujourd'hui. Distingués invités, mesdames, messieurs, la présente cérémonie participe de l'accélération de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en traduisant en actes concrets les engagements pris par le chef d'État de l'Union africaine en 2022. À titre de rappel, en effet, le contexte de masculinité positive a été adopté par le chef d'État membre de l'Union africaine le 25 novembre 2021 à Kinshasa, République démocratique du Congo, et nous avons eu l'honneur de représenter en mode virtuel, parce que nous étions en pleine période de Covid, nous avons donc représenté en mode virtuel le président de la République, Son Excellence Paul Biya, au cours de cette conférence. Et au terme de cette conférence, donc, les chefs d'État ont fait une déclaration et un appel à l'action sur la masculinité positive et le leadership pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles en Afrique. Donc, ce n'est pas une initiative camerounaise, mais c'est les chefs d'État africains membres de l'Union africaine. Donc, selon la définition retenue dans le cadre de cette conférence, la masculinité positive est une perspective par laquelle l'engagement des hommes et des garçons a été utilisé pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes. Il s'agit de comprendre que les hommes peuvent être des alliés stratégiques dans le travail de transformation des rapports hommes-femmes. Ces engagements ont conduit à des initiatives nationales telles que la sensibilisation accrue des hommes influents pour l'adoption des comportements positifs ou la mise en place des plateformes d'action telles que le club des ambassadeurs de la masculinité positive dont nous lançons les activités ce jour dans un contexte marqué par la recrudescence des féminicides, les violences de toutes sortes et bien d'autres maux dont souffrent les femmes et les familles. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the pursuit of gender equality has long been perceived as a challenge that concerns women alone. However, the reality is quite different. To build a fair, strong, and prosperous nation, we need all components of society, men and women, boys and girls. And now more than ever, we need the involvement of men and boys to meet this challenge. The event that brings us together today marks the advent of a new generation of male leaders who have understood that equality and equity are not threats, but rather catalysts that unite everyone towards the full personal development of individuals, their families, and their communities. The movement we are launching today is a platform that will engage men and boys in changing attitudes towards women and in concretely improving the living conditions of women and their communities. The action plan of the Ambassadors Club is certainly ambitious, but I think you have to be ambitious. If you are not ambitious, I don't think you can go very far. So, it is ambition, but quite realistic. It calls for the mobilization of all forms of resources. This therefore provides me with the opportunity to appeal to all of us, stakeholders, partners alike, to support this very promising initiative. Monsieur le Président, the Club des Ambassadeurs de la Masculinité Positive, chers membres du club des ambassadeurs de la masculinité positive, grandes sont les missions qui vous sont assignées dans l'animation du club dont vous êtes désormais les pionniers et acteurs majeurs pour le succès des activités de promotion de la masculinité positive au Cameroun. Les défis sont nombreux, car il s'agit de transformer les normes sociales. Travailler avec les hommes et les garçons permet ainsi d'aller à l'encontre des stéréotypes qui véhiculent que les hommes sont contre l'égalité hommes-femmes. Le département ministériel dont j'ai la charge est disposé à vous accompagner et à maintenir ses engagements au nom du gouvernement sous la très haute institution qui présente la République Son Excellence pour l'IA, pour que le club des ambassadeurs de la masculinité positive inscrive ses lettres de noblesse dans notre société. La tâche est ardue, certes, mais exaltante. Je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre souci du devoir bien accompli. Vous vous êtes ouvert à nous en vous disant ce qui vous a poussé à soutenir les femmes, à essayer de lutter contre cette injustice. Merci pour cette candeur et merci pour le partage de cette confidence. Procéder donc au lancement officiel des activités revient non seulement à légitimer vos actions comme acteurs liés du paysage national de promotion de la masculinité positive, mais également à vous mettre face à vos responsabilités et engagements. Mais vous ne serez pas seul. Nous allons tous essayer d'être avec vous, de vous soutenir. Distinguished guests, ladies and gentlemen, before concluding my remarks today, I would like to acknowledge that this ceremony marks the beginning of an exciting journey that I sincerely hope will be fruitful for the Positive Masculinity Ambassadors Club and for our beloved country. Our beloved country as a whole. I call upon all stakeholders involved to mobilize, each one within their respective capacities, to ensure the full success of the Positive Masculinity Ambassadors Club's action for the road towards a violence-free Cameroon, as envisioned by the head of state, remains long. The journey is long. And it is with this appeal that I hereby officially declare the activities of the Positive Masculinity Ambassadors Club launched. Long live partnership for the promotion of positive masculinity, and long live Cameroon and its illustrious leader, His Excellency Paul Biya, President of the Republic. Merci pour votre bienveillante attention.
Thank you very much, Excellency, ladies and gentlemen. Before we go in for the group picture, we are going to proceed with the handing over of attestations of certificates to lawyers and magistrates who took part in a seminar yesterday, or capacity building workshop, actually on the fight against gender-based violence. So right away, we are going to call on the names of the lawyers and the magistrates. You will come with the help of the protocol to receive your attestation with the hands of a personality present here. I will invite right away Daniela Monto. Is Daniela Monto around?
While Daniela Monto is coming in, we will call Ibrahima Mahmoud.